Chapitre 35. Callan plissa les yeux et sonda à son tour l'horizon. Au pied de la statue, on avait une vision plongeante sur tout ce qui s'étendait à l'ouest du col. L'inquisitrice avait le sentiment de contempler tout un monde, ou en tout cas la moitié d'un monde. Pourtant, elle ne distinguait pas ce que Richard affirmait avoir vu. « Je n'aperçois pas trace des piliers de la création ?» dit-elle. Richard tendit un bras et se pencha vers sa femme. « Suis la direction de mon regard. Tu vois cette dépression plus sombre dans la grande étendue de terrain plat ?» La vue du sourcier était bien meilleure que celle de sa compagne qui se brouillait à partir d'une certaine distance. « Fie-toi au point de repère, » conseilla Richard. Il tendit le bras vers la droite. « Tu vois ces montagnes ? Et celle-là un peu sur la gauche. Elles sont plus hautes que les autres et leur forme est très particulière. » Prends-les comme référence pour t'orienter. Oui, oui, ça marche. Maintenant, je reconnais le territoire que nous avons traversé. Tout ça grâce à tes montagnes. Mais qu'il était déconcertant de voir les choses de si haut. Désormais, Callan identifiait le désert où ils avaient tant souffert et tout au fond la cuvette naturelle qu'on appelait les piliers de la création. Owen, à quelle distance sommes-nous des collines où tu te cachais avec tes hommes ? Le Bandagar parut troublé par cette question. « Seigneur Rahl, je ne suis jamais venu ici, et c'est la première fois que je vois cette statue. Je ne me suis jamais approché de cette zone. Me repérer est tout simplement impossible. »« C'est faux, » dit Richard. « Si tu connais un peu ton pays, tu dois être capable de t'orienter, comme je viens de le faire en scrutant l'ouest pour retrouver le chemin que nous avons suivi. Regarde en direction de l'Empire et tente de reconnaître des détails du paysage. » L'air sceptique, Owen fit le tour de la statue, se plaçant dans le dos du personnage, et resta un long moment immobile. Soudain, il désigna une montagne dans le lointain. « Je crois que je la connais ?» dit-il très surpris. « Oui, sa forme me rappelle quelque chose. De notre point d'observation, ça semble un peu différent, bien sûr, mais ce doit être l'endroit que je connais. » Il mit une main en visière pour se protéger les yeux du vent. « Là, encore un endroit qui m'est familier !» Owen courut rejoindre Richard. « Vous aviez raison, Seigneur Hall, » s'écria-t-il. « Je réussis à m'orienter. » Il baissa le ton comme s'il parlait tout seul. « Je ne suis jamais venu ici. Pourtant, je peux dire où est ma ville. » Callan n'avait jamais vu personne s'émerveiller d'une chose si simple. « Bon, » intervint Richard, « à quelle distance sommes-nous de tes hommes ?» Owen jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Traverser cette plaine là-bas, puis contourner la pente sur la droite. » Le Bandakar se retourna vers Richard. « Nous nous cachons pas très loin de l'endroit où se dressait la frontière. Personne ne s'aventure par là parce que c'est le domaine de la mort, tout près du col. Je dirais qu'une bonne journée de marche suffira. Mais, eh bien, si mes yeux m'abusaient, me montrant ce que j'ai envie de voir, pas ce qui existe vraiment, ce n'est peut-être pas réel ?» Richard croisa les bras, s'adossa au socle de la statue et regarda les lointains piliers de la création. À l'évidence, les doutes philosophiques d'Owen le laissaient de marbre. Connaissant son mari, Callan devina qu'il réfléchissait aux différentes possibilités qui s'offraient à eux. La jeune femme voulut également s'adosser au socle. Avant de le faire, elle balaya machinalement la neige à côté de l'endroit où reposait désormais la seconde balise. La moulure ornementale portait une inscription. Richard, regarde. Le sourcier tourna la tête, vit ce que lui indiquait sa femme et entreprit aussitôt de retirer davantage de neige. Kara vint aider son seigneur et tous les autres les rejoignirent pour découvrir la mystérieuse inscription. Callan ne parvint pas à la lire. Elle reconnaissait les lettres, mais ne réussissait pas à leur donner un sens. Du haut d'Aran ? Demanda Kara. Richard hocha la tête. « Un très ancien dialecte, » marmonna-t-il, « très ancien et très éloigné de ce que je connais, sans doute parce que nous sommes au cœur de l'ancien monde. »«
Que disent ces mots ?» demanda Jensen. « Tu peux les traduire ?»«
Ce n'est pas facile du tout. » Il suivit du bout d'un index le contour de chaque lettre, puis il se redressa, jeta un coup d'œil à Owen et recula un peu pour observer l'inscription de loin. Les autres attendaient, suspendus à ses lèvres.
« Je ne sais pas trop. La syntaxe est étrange. »
Richard tourna la tête vers Callan. Impossible à dire. Je n'ai jamais vu de Haut-Daran rédigé ainsi. Je devrais pouvoir comprendre, mais je n'y arrive pas. »
L'inquisitrice se demanda si son mari ne projetait pas un écran de fumée parce qu'il n'avait pas envie de donner la traduction devant les autres.
« Tu devrais prendre le temps de la réflexion, » proposa-t-elle, lui tendant une perche, « et ça finira peut-être par venir. »
Richard ne saisit pas l'occasion de se dérober, donc son problème n'était pas le public présent. Il tapota quelques lettres sur la gauche de l'endroit où trônait la balise.
« Cette partie est un peu plus facile à comprendre. Elle dit quelque chose de ce genre. Craignez toute brèche dans la frontière qui isole ce grand empire. »
Le sorcier étudia les autres mots.
« Là, j'ai beaucoup plus de doutes, mais si je devais avancer une traduction, ce serait « car il abrite des démons, ceux qui ne peuvent pas voir. »
« Voilà qu'on traite de démons les trous dans le monde maintenant, »
marmonna Jensen.
« Ne t'emballe pas, » lui conseilla Richard. « Je ne suis pas sûr de mon interprétation. Il reste des zones d'ombre et je peux me tromper. »«
Pas d'autres !»
s'écria Jensen.
« Ceux qui ne peuvent pas voir la magie. Voilà ce que ça veut dire. Ces mots ont été gravés par les sorciers responsables de l'exil des trous dans le monde. »
Des larmes perlèrent aux yeux de la jeune femme.
« Tu as des doutes sur le sens de cette inscription ? Allons, Richard, c'est tellement évident !»
Personne n'osa émettre d'objection, à part le sorcier, bien entendu.
« Je n'en suis pas aussi sûr que toi, Jensen. »
La jeune femme tourna le dos à son frère et se perdit dans la contemplation des lointains piliers de la création. Callan comprit parfaitement sa réaction. Jensen se sentait exclu par tout le monde, à l'exception des personnes qui lui ressemblaient. Les inquisitrices avaient vécu la même expérience car beaucoup de gens les tenaient pour des monstres. S'ils avaient pu, ils les auraient volontiers parqués derrière une frontière. Cela dit, comprendre les sentiments de Jensen ne revenait pas à les partager. La jeune femme avait raison d'en vouloir aux anciens, les responsables du bannissement, mais se défouler sur Richard et sur tous ceux autour d'elle qui avaient une étincelle de don n'était pas très honnête. Richard s'intéressa de nouveau à Owen.
« Combien d'hommes t'attendent dans ces collines ?»«
Moins d'une centaine. »
Richard soupira de déception.
« Eh bien, si tu n'en as pas plus, il faudra faire avec. Plus tard, nous tenterons d'en recruter d'autres. »
Pour l'instant, je veux que tu ailles chercher ces hommes et que tu me les amènes ici.
Nous t'attendrons près de la statue. Cet endroit va devenir notre quartier général et c'est ici que sera conçu le plan qui boutera l'ordre hors de Bandakar. Nous établirons notre camp dans le bosquet là-bas, où il sera bien défendu.
Owen regarda l'endroit qu'indiquait Richard, puis il sonda de nouveau l'est.
Seigneur Hall, vous devez nous libérer. Si vous voulez connaître ces hommes, pourquoi ne pas venir simplement avec moi ?
Parce qu'ils seront plus en sécurité ici que dans des collines où les soudards de l'ordre peuvent aller les chercher quand l'envie leur en prendra.
Ils ignorent que des résistants se cachent encore dans les collines, Seigneur.
Tu te laisses abuser par tes sens, mon ami. Les soldats de l'ordre sont brutaux, mais pas idiots.
Dans ce cas, pourquoi ne sont-ils pas venus chercher mes compagnons ?
Ils le feront, répondit Richard. Quand le moment leur conviendra, ils n'hésiteront pas. Tes amis ne sont pas une menace pour l'ordre, alors pourquoi se presser ? Mais tôt ou tard, il faudra les capturer, parce que nul ne doit pouvoir croire qu'il est possible d'échapper à l'ordre impérial. Tes hommes viendront ici, et nos ennemis, pensant qu'ils se sont enfuis, renonceront à les poursuivre.
« Je crois que je suis d'accord, »
souffla Owen après une assez longue réflexion. Tom s'était posté près du coin le plus éloigné du socle, afin de laisser Jensen tranquille. Elle paraissait furieuse et il ne semblait pas judicieux de la déranger. Tom se sentait un peu coupable, comme s'il jugeait indécent d'être né avec l'étincelle de don qui lui assurait de n'être jamais exclu ni banni.
« Tom, » dit soudain Richard, « je veux que tu accompagnes Owen. »
Jensen se retourna et décroisa les bras.
« Pourquoi Tom doit-il partir ? »
demanda-t-elle d'un ton beaucoup moins agressif.
« Une très bonne question, »
approuva Owen.
« Parce que je veux être sûr que les résistants arrivent jusqu'ici.
J'ai besoin de l'antidote, au cas où quelqu'un l'aurait oublié. Plus je serai entouré de personnes qui savent où il est, et mieux ce sera. Ces hommes doivent être hors de portée des bourreaux de l'ordre. Avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds, Tom passera sans peine pour un Bandakar. Si des soldats ennemis l'aperçoivent, ils n'auront aucun soupçon. Et s'ils veillent sur les résistants, ils arriveront ici entiers, j'en suis sûr. »
C'est une mission dangereuse,
dit Jensen, indigné.
Richard soutint le regard de sa sœur et ne répondit rien, attendant qu'elle ose justifier cette dernière remarque. Mais elle baissa les yeux.
« C'est un plan intelligent, »
admit-elle. « Tom, » dit Richard, « essaie de nous rapporter des vivres et de l'équipement. Si ça ne te dérange pas pendant ton absence, j'aimerais utiliser ta hache. »
Tom sortit immédiatement la hachette de son paquetage. Pendant qu'il approchait pour en prendre possession, Richard récita la liste des choses que Tom devrait rapporter. Des outils, du bois de construction, de la colle de peau, du fil solide, des clous.
« Compris, »
fit Tom en glissant les pouces dans sa ceinture.
« Je doute de trouver tout ça facilement. Vous voulez que je cherche partout avant de revenir ?»«
Non, j'ai besoin de ces fournitures, mais les hommes sont plus importants. Prends tout ce qui est disponible, puis reviens le plus vite possible avec Owen et ses compagnons. »
« Je ferai de mon mieux.
Quand devons-nous partir ?»«
Maintenant, il n'y a pas une minute à perdre. »«
Maintenant ?»
s'indigna Owen.
« Mais il fera nuit dans une heure ou deux. »«
Au bout du compte, ce sont peut-être une heure ou deux qui me tueront. Alors ne gaspillons pas celle-ci. »
Callan supposa que Richard faisait allusion au poison. Mais il pouvait aussi penser au don, car ses migraines devenaient de plus en plus fortes. Elle brûlait d'envie de le serrer dans ses bras, de le réconforter, de le dorloter, mais elle ne devait pas se laisser aller. Il fallait lutter pour trouver une solution. Ce combat-là ne pouvait pas être perdu.
Callan regarda la petite représentation de Richard posée sur le socle de la statue. La moitié du personnage était noire comme une pierre de nuit, un aperçu de l'obscurité qui devait régner dans les recoins les plus oubliés du royaume des morts.
« Veille bien sur eux, Kara, »
dit Tom en jetant son paquetage sur son épaule. La mort de Sith eut un demi-sourire.
« On se revoit dans quelques jours, les amis. »
Ses yeux s'attardant un long moment sur Jensen, Tom fit au revoir de la main, puis il s'éloigna en compagnie d'Owen.
Kara croisa les bras et chercha le regard de Jensen.
« Si tu ne cours pas lui donner un baiser, histoire de lui souhaiter bonne route, tu es la reine des idiotes. »
Troublée, la jeune femme interrogea Richard du regard.
« En général, je ne polémique pas avec Kara, » dit le sorcier.
Jensen sourit, puis partit au pas de course afin de rattraper Tom. Comme elle n'avait pas lâché la longe de Betty, la chèvre lui emboîta joyeusement le pas. Richard reprit la balise et la remit dans son sac, puis il récupéra son arc qu'il avait laissé appuyer contre le socle.
« Nous devrions aller dresser notre camp. »
Callan, Kara et le sorcier regagnèrent le couvert des arbres. Au gré de l'inquisitrice, ils étaient restés bien trop longtemps en pleine vue. Tôt ou tard, les coureurs de Nicolas reviendraient et les imprudences de ce genre se paieraient au prix fort. Malgré le froid, il ne serait pas question d'allumer un feu, car les oiseaux pouvaient repérer une colonne de fumée à des lieues de distance. Du coup, il leur faudrait s'aménager un abri aussi confortable que possible. Un pin compagnon aurait été idéal, mais elle n'en avait jamais vu dans l'ancien monde et ses désirs ne suffiraient pas à en faire sortir un de terre. Alors qu'elle prenait garde à marcher sur les rochers afin de ne pas laisser de traces dans la neige, l'inquisitrice jeta un coup d'œil au ciel menaçant. Si la température montait un tout petit peu, il pouvait pleuvoir au lieu de neiger, mais même ainsi la nuit serait glaciale. Betty derrière elle, Jensen réapparut et eut vite fait de rattraper ses compagnons. Le vent devenait de plus en plus froid et les flocons grossissaient à vue d'œil. Quand elle l'eut rejoint, Jensen prit le bras de son frère.
« Richard, je suis désolé. Je n'aurais pas dû m'énerver. Mais je n'ai rien contre toi, tu sais. J'ai conscience que tu n'as pas banni ces gens. Tu n'y es pour rien. »
Jensen enroula autour de son poignet une bonne partie de la longe de Betty.
« Savoir qu'on les avait maltraités m'a mise hors de moi. » « Parce que je leur ressemble, comprends-tu ?»«
Ce qu'on leur a fait justifie ta colère, » dit Richard. « Mais que tu leur ressembles ou non n'a aucune importance. »
Surprise et peut-être un peu blessée par ces paroles, Jensen tira sur le bras du sorcier pour qu'il s'immobilise.
« Que veux-tu dire ?»
Richard s'arrêta et se tourna vers sa sœur. « C'est la façon de penser de l'ordre impérial et des bandes Dakar. Une manière de conférer un prestige désincarné à une communauté donnée. » Ou de l'accabler sous une chape de culpabilité.
L'ordre veut faire croire aux gens que leur vertu, leur valeur personnelle, ou au contraire leur tare, découlent de leur appartenance à un groupe. L'individu et son libre arbitre sont tenus pour des quantités négligeables.
Cette philosophie prétend que tous les êtres sont des membres interchangeables de communautés dont les caractéristiques demeurent immuables. Elle postule l'existence d'une identité collective et refuse de prendre en compte la notion de mérite individuel. Seul le groupe peut être méritant. Quand une personne sort du rang, c'est uniquement pour recevoir les honneurs dus à la communauté dont elle est devenue la représentante. La lumière qui semble inonder cet individu se reflète en réalité sur tous les autres membres de son groupe. L'arbre ne cache plus la forêt, il la symbolise. Les héros ainsi distingués savent qu'ils n'ont pas les compétences correspondant à leur statut. Incapables de s'aveugler, ils en viennent vite à se mépriser eux-mêmes. Vivant dans le mensonge, ils sont obligés de recourir à la force pour conserver leur pouvoir mal acquis. Car un vrai chef, Jensen, n'est pas avide de gloire et de puissance. En revanche, il est capable d'entraîner les autres à sa suite. L'ordre estime que l'humanité est coupable par nature. Les motivations d'un individu étant toujours perverses, on le condamne d'avance à se sacrifier au nom du bien commun. Tout à l'heure, quand tu t'es identifié aux Bandakar, tu m'as indirectement accusé d'être responsable de leur exil parce que j'ai un point commun avec les anciens. Exactement ce qui se passe quand les gens disent que je suis un monstre parce que notre père en était un. Si tu admires quelqu'un parce que tu trouves des qualités au groupe dont il est issu, tu adoptes exactement la même éthique corrompue. Selon l'ordre impérial, aucun individu n'a le droit de réussir quelque chose seul ou d'accomplir un exploit inaccessible pour une autre personne. C'est même pour ça que la magie doit être anéantie. Pour ces gens, l'épanouissement est un acte impie parce qu'il plonge ses racines dans l'égoïsme. Bien entendu, les fruits d'un tel arbre ne peuvent être que pourris. Voilà pourquoi un être humain doit offrir ce qu'il a gagné à ceux qui n'ont rien fait pour le mériter. Le sacrifice est purificateur, comprends-tu? C'est la voie de la rédemption. Nous pensons bien au contraire qu'une vie a de la valeur en soi, vise des objectifs légitimes et produit des bénéfices, matériels ou non, parfaitement justifiés. On s'épanouit soi-même par le travail qu'on fournit sur sa propre personne. Quand un groupe propose le bonheur collectif à ses membres, c'est qu'il a appris à donner un autre nom à l'esclavage. Jensen dévisagea longuement son frère, puis elle lui sourit.
C'est pour ça que tu crois que j'ai toujours cherché à être accepté tel que j'étais, et que j'ai trouvé injuste d'être persécuté à cause de ma naissance?
Tu as tout compris, confirma Richard. Si tu veux être fier de toi à cause de ce que tu as réussi, ne te laisse jamais entraver par un groupe et ne fais rien qui puisse enchaîner quelqu'un d'autre à une communauté. Par exemple, en portant sur une personne un jugement qui repose sur son appartenance à une ethnie ou à un groupe. En clair, ça signifie qu'on ne doit pas me haïr parce que mon père était un monstre, mais qu'il serait tout aussi faux de m'admirer parce que mon grand-père est un homme formidable. J'ai le droit de vivre ma vie pour moi-même en visant les objectifs qui m'intéressent. Tu te nommes Jensen Rall et ce que tu fais de ton existence te regarde.
Le frère et la sœur continuèrent leur chemin en silence. Jensen semblait troublé par tout ce que le sourcier venait de lui dire. Quand ils furent tous revenus dans la forêt, Callan se sentit rassuré par l'épaisse frondaison des pins, puis par la protection plus intime d'un bosquet très serré de sapins baumiers. Ils choisirent de camper au pied d'un énorme rocher. Avec un pareil mur du fond, aménager un abri avec des branchages et des buissons était beaucoup plus facile. Richard utilisa la hachette de Tom pour amputer quelques jeunes pins de solides branches, puis il les planta en terre devant la muraille rocheuse. Pendant qu'il les attachait les unes aux autres avec des racines récupérées dans le sol, Callan, Jensen et Kara se chargèrent de trouver des branches plus petites qui serviraient de plancher et de toit.
« Richard ?»
demanda Jensen tout en tirant vers le refuge sa dernière collecte.
« Comment comptes-tu libérer les Bandakar du joug de l'ordre ?»
Richard posa la première branche du toit et entreprit de l'attacher avec une longue racine.
« Je n'en ai pas la moindre idée, mais ma priorité est de me procurer l'antidote. »«
Tu n'aideras pas ces gens ?»
s'étonna Jensen.
« Ils m'ont empoisonné. Même si c'est présenté en termes fleuris, ils ont l'intention de m'assassiner si je refuse de leur obéir, en clair, de faire le sale travail à leur place. Pour eux, nos vies ont peu de valeur parce que nous n'appartenons pas à leur communauté. » De mon point de vue, l'antidote est tout ce qui compte parce que c'est de ma survie qu'il s'agit.
Je vois ce que tu veux dire,
Jensen passa une autre branche à son frère.
« Mais selon moi, éliminer l'ordre ici et tuer Nicolas serait très utile à notre cause. »
« Je suis d'accord, et c'est pour ça que nous ferons de notre mieux. Mais pour aider vraiment Owen, il me faudra le convaincre que ces hommes et lui doivent céder eux-mêmes. »«
Une excellente idée, »
ironisa Kara.
« Permettre aux agneaux de se transformer en loups. Mais ça ne se fera pas tout seul. »
Callan partageait cette analyse. Pour elle, changer le comportement des Bandakar était un défi plus difficile à relever que de vaincre une armée de l'ordre, même à eux cinq. Elle se demanda quelle idée son mari avait en tête.
« Puisque nous sommes tous embarqués dans cette aventure, »
dit soudain Jensen,
« n'ai-je pas le droit d'en savoir plus long sur toute cette affaire ? J'en ai assez de vous voir échanger des regards entendus ou de faire des messes basses. »
Richard dévisagea longuement sa sœur avant de se tourner vers Callan pour l'interroger du regard. L'inquisitrice posa une brassée de branches aux pieds de son mari.
« Richard, je pense qu'elle a raison. »
Le sourcier ne parut pas ravi, mais il se fia au jugement de sa femme, comme souvent.
« Il y a presque 2 ans, » dit-il, cessant de travailler, « Jagang a utilisé la magie pour provoquer une épidémie de peste. La maladie elle-même n'avait rien de surnaturel. Comme toutes les pestes, elle s'est répandue de ville en ville et a fait des milliers de victimes. L'incendie ayant été allumé par une étincelle de magie, j'ai pu l'enrayer en recourant à mon pouvoir. »
Callan doutait qu'un tel cauchemar puisse se résumer en quelques phrases si rationnelles. Pourtant, Jensen semblait avoir saisi l'essence même de ce drame, une terreur sans nom presque impossible à décrire avec des mots.
« Pour revenir de l'endroit où il avait dû aller pour vaincre l'épidémie, » enchaîna Callan, occultant une grande partie de l'histoire, « Richard a dû contracter volontairement la peste. S'il ne l'avait pas fait, il aurait vécu très longtemps et serait mort seul, sans avoir l'occasion de me revoir, ni quiconque d'autre d'ailleurs. Il a accepté d'être malade pour pouvoir me dire une dernière fois qu'il m'aimait. »
« Vous ne le saviez pas ?»
s'étonna Jensen avec une touchante naïveté. Callan eut un sourire amer.
« Tu sais que ta mère t'aimait, n'est-ce pas ? Tu crois que ça l'empêcherait de revenir en ce monde pour te le dire, si on lui en offrait la possibilité ? Non, rien ne l'en empêcherait. Mais Richard, pourquoi devais-tu tomber malade pour revenir, et d'abord revenir d'où ?
Le temple des vents, un endroit qui existe en partie dans le royaume des morts. Un peu comme la frontière qui passait par ici avant qu'elle disparaisse. Pour sortir du temple, j'ai dû payer un prix qui a été fixé par un résident du royaume des morts, une sorte de fantôme, si ça peut t'aider à comprendre.
« Un fantôme ? Tu en as vu dans le temple des vents ?»
Richard hocha simplement la tête.
« Pourquoi le prix était-il si cruel ?»«
Parce que c'est le spectre de Darkenral qui l'a fixé. » Jensen en resta bouche bée.
« Quand nous avons trouvé le seigneur Ral, » dit Kara, « il était presque mort. La mère inquisitrice a voyagé seule dans la Slif pour trouver un moyen de le sauver. Elle a réussi, mais à son retour, la vie du seigneur Hall ne tenait plus qu'à un fil. J'ai utilisé la magie que j'avais rapportée, » enchaîna Callan. « Pour débarrasser Richard de la peste, j'ai invoqué les 3 carillons. » « Le carillon ? De quoi s'agit-il ? Une magie venue du royaume des morts. « Demander leur aide empêche une personne de traverser le voile. Malheureusement, ou peut-être par bonheur, j'ignorais tout des carillons. Plus tard, nous avons appris que leur naissance remontait aux grandes guerres. Leur mission était de détruire la magie. Ce sont des créatures, enfin plus ou moins, mais dépourvues d'âme. Les carillons viennent du royaume des morts et ils neutralisent la magie dans notre monde. « Et comment font-ils ça ? »
demanda Jensen.
« Je n'en sais rien. »
Mais quand ils sont lâchés dans notre monde, la magie commence à mourir.
Et vous ne pouviez pas vous en débarrasser, par exemple en les renvoyant chez eux ?
C'est fait depuis longtemps, intervint Richard. Mais pendant leur séjour ici, la magie s'est altérée.
Selon toute vraisemblance, invoquer les carillons a déclenché une série d'événements qui est toujours en cours malgré l'intervention de Richard.
C'est ce que tu penses, coupa le sourcier, mais rien n'est moins sûr.
« C'est vrai, » admit Callan. « Nous n'avons aucune certitude, mais tous les indices concordent.
Pensez à la disparition de la frontière ici. La chronologie colle avec mon interprétation des faits. Une de ces erreurs dont je te parlais l'autre jour, Jensen. Tu te rappelles ?
La sœur de Richard hocha la tête.
Vous ne vouliez nuire à personne et vous ne saviez pas ce qui allait arriver. Comment auriez-vous pu prévoir la disparition de la frontière, l'attaque de l'ordre et les malheurs des bandes Dakar ?
Qu'est-ce que ça change ?
Je suis responsable, un point c'est tout. À cause de moi, la magie se meurt. J'ai réussi à faire sans effort ce que l'ordre impérial s'acharne à réaliser. Par ma faute, beaucoup de bandes Dakar sont morts, et d'autres, partout dans le monde, donnent naissance à une humanité dépourvue d'une étincelle de pouvoir. La fin de la magie est proche et c'est moi qui l'aurai provoquée. Et vous le regretterez ? La disparition de la magie vous gêne tant que ça ?
Pour la consoler, Richard passa un bras autour de la taille de Callan.
La magie a toujours fait partie de ma vie, Jensen. Le rôle de la mère inquisitrice est de protéger les créatures magiques. En réalité, j'en suis une, car le pouvoir fait partie de moi comme mon sang ou ma chair. La magie a des aspects merveilleux que j'adore. Elle fait partie intégrante du monde des vivants. Donc, vous craignez d'avoir provoqué la fin de ce que vous aimez le plus ?
Pas le plus, mon enfant.
Callan sourit.
J'ai accepté la charge de mère inquisitrice parce que les lois, selon moi, doivent protéger tous les individus et leur garantir le droit de vivre comme ils l'entendent. Je refuse qu'un sculpteur ne puisse plus créer, qu'un chanteur soit réduit au silence ou qu'on empêche une personne de penser. Dans le même ordre d'idées, je me bats pour préserver le pouvoir des créatures magiques. La magie n'est pas ma préoccupation essentielle. Je veux que toutes les fleurs du monde aient une chance d'éclore. Tu es formidable, Jensen. Et je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour défendre ton droit à l'existence. Tout le monde mérite de vivre. La simple idée de choisir qui vivra et qui mourra est totalement opposée à nos idéaux.
Callan caressa la joue de Jensen qui eut un grand sourire.
Dans un monde où la magie n'existerait pas, j'aurais une chance d'être reine.
Possible,
marmonna Kara.
Mais les reines aussi doivent s'incliner devant la mère inquisitrice. Ne t'avise surtout pas de l'oublier.